Ce podcast est présenté par Mise au jeu.
Mise au jeu. Gages-tu ?
Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.
Peu importe c'est où. Peu importe où ça joue, MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial, on en parle tout le temps.
Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact.
Football Club, les pionniers du podcast soccer, c'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le CAN Football Club.
Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du Couscous Piri Piri sur la plateforme podcast soccer du CAN Football Club, CAN Football Club Plus. Bienvenue à au meilleur réseau podcast au pays, je le dis tout de suite. On est bienvenue en cette édition du 3 septembre 2018. Sofiane avec vous et comme d'habitude, mon compère dans ce Couscous Piri Piri, hashtag CCPP, monsieur Nilton George. Salut Nilton.
Oh là, comment ça va? Toi et Safir, ça va?
Alhamdulillah, Inch'Allah, tout va bien, la baraka. Inch'Allah. Et voilà. Et non, on va bien. La communauté jeune se porte très bien. L'équipe nationale se rassemble pour un match de qualification pour la CAN 2019 face à la Gambie sous la houlette du nouveau sélectionneur Jamel Belmadi, un joueur que j'ai beaucoup suivi quand j'étais plus jeune.
C'est vrai. Il va falloir que tu me mettes un peu au fait là, de la sélection algérienne. Tu sais, Majer, oui, je le connaissais, mais là j'ai moins de repères, là, contrairement à toi.
Jamel Belmadi, c'était... déjà, bienvenue à tout le monde au podcast. Merci à tous nos patrons qui nous supportent et merci à La Force du Malte, évidemment, et notre sponsor pour nos émissions. Et bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Maintenant, qui est Jamel Belmadi? Né le 25 mars 1976.
Mais ah, non, c'est précis.
blague à part, c'est un peu comme les joueurs qui sont dans la section, un binational algérien, un français d'origine algérienne qui est né dans la région parisienne, sur l'île de France, dans une banlieue de Paris, un ailier droit qui a été formé au Paris Saint-Germain. Notamment, mais il a jamais joué là-bas. Il a surtout fait son nom je pense, c'était à Martigues où il avait commencé professionnellement. Je sais pas si c'était la division 2, division 1. Il avait fait un passage à Marseille. Il s'est fait prêter un peu partout.
Oui,
mais c'est à Marseille où il a fait son nom. Après un deuxième retour, pendant 3 ans, il était un sort de titulaire à Marseille. Il a fait une ou deux bonnes années relativement, là, parce que Marseille, à ce moment-là, c'était pas...
Au début des années 2000, à peu près, c'est ça?
C'est ça, oui. C'est ça, exactement. Il était avec Marseille 2000, je check sa fiche, 2000-2003, c'est ça. Donc, c'est un ailier droit, milieu offensif, pas mauvais, un bon joueur de Ligue 1 dans les années 90-2000, genre fin 90, début 2000. Et puis il n'a jamais été une star. Il a fait une vingtaine de sélections avec l'équipe nationale d'Algérie.
Il aurait été parfait à l'Impact de Montréal.
Ah oui, il aurait été complètement parfait là. Il est au milieu, juste devant Taider et Piet, Silva à droite, Piet à gauche, voilà. Et Amari Croix devant. Donc ça aurait été
parfait. C'est incroyable. Je viens de voir là, sa date de naissance. Même lui, je suis plus vieux que lui. C'est triste.
Ouais, mais il a l'air plus vieux que toi. Il a l'air plus vieux que toi. Il perd ses cheveux. Donc c'est ça, c'est un bon vétéran de Ligue 1. Il a joué un peu à Manchester City, pas trop longtemps, pour finir sa bosse. Je pense qu'il partait au Moyen-Orient, revenu en Angleterre un peu pour finir en France. Donc voilà, il succède à Rabah Majer. Il a été sélectionneur après avoir coaché des clubs au Qatar, il a été sélectionneur du Qatar pendant un an. Et puis là, il se retrouve sélectionneur de l'Algérie. Donc, c'est un profil très différent. Il n'a pas vraiment l'expérience auquel on est habitué quand un sélectionneur vient dans une sélection nationale, notamment en Afrique, partout en général. C'est un sort de pari de la fédération. Puis, qu'on a vu là-dessus le dossier, c'est que Jamel Belmadi était en théorie le plan F ou H de la fédération algérienne. Ils avaient des contacts avec d'autres sélectionneurs étrangers, internationaux, puis c'était pas le choix numéro un. Et c'était peut-être une bonne chose que là, il aura l'air vraiment l'air bien si l'équipe joue bien. surtout qu'il y a un très bon effectif avec lui, quoi.
On s'entend que le groupe d'Algérie, c'est un groupe relevé, là. C'est, ils sont tout le temps. Leur absence à la Coupe du Monde, c'était comme une anomalie. Là.
Oui, une anomalie, mais déjà à la Coupe du Monde, se qualifier, c'est difficile.
Oui,
c'est toujours
difficile,
surtout en Afrique. Tu fais plusieurs tours de qualification pour ensuite des groupes de la mort où tu as juste une équipe qui passe.
Oui, donc, exact. Tu tombes dans le mauvais groupe, ça devient compliqué dès le premier mauvais résultat. Là.
Exactement. Et puis, c'est des joueurs talentueux, que ce soit des binationaux, comme on les appelle, ou des joueurs qui jouent dans le pays. Mais je pense à cette sélection de 25 joueurs. Il n'a pris aucun joueur qui joue dans la ligue locale en ce moment. Mais beaucoup, certains sont des joueurs formés en Algérie. Mais en théorie, intéressant.
En théorie, Saphir est loin d'avoir une place titulaire. Déjà qu'il est dans le groupe.
Oui, mais avec son âge et son talent, a priori, il va dans un groupe élargi. Est-ce qu'il va dans un groupe de 23, disons, dans une Coupe du Monde? On ne sait pas, parce qu'il y a de la compétition. Puis, si vous avez suivi mon tweet, j'ai parlé un peu des références contre qui il se bat au milieu de terrain. Ben, c'est Safi Tider, il se bat contre lui-même. Adeline Guédiora, qui s'est blessé, mais il était surtout titulaire à Nottingham Forest en Championship. Mehdi Abid, milieu de terrain de Dijon, que je pense qu'il s'est blessé au dernier match, et Nabil Bentaleb qui est à Schalke 0 Nulfir,
qui est plus jeune aussi,
un gaucher. Et donc c'est ça, il y a la compétition, mais encore une fois, est-ce que c'est un 4-4-2, 4-3-3 que Mehdi va faire,
exact.
On verra. Mais moi, Tider, dans un groupe, disons, tu fais un groupe de 30, il est là, un groupe de 25, je pense aussi, parce qu'il a l'expérience, il a le jeu.
Il y a la polyvalence aussi, là, on le voit, là, il est capable d'occuper plusieurs rôles.
Exactement, on l'a vu contre les Red Bulls de New York, quand Azira et Piet se sacrifient pour que Tider monte plus haut, ça donne que Tider n'est pas obligé de tout faire en même temps. Donc, toutes vos critiques...
Intéressant, ça va être intéressant à suivre. Là.
Exactement, c'est ça, et c'est une équipe qui a quoi, 7-8 attaquants, là, avec le profil offensif.
Mais tu vois, c'est ça que je trouve intéressant avec l'impact de Montréal, ce qu'on n'avait pas il y a 5 ans, on peinait à suivre la sélection canadienne, déjà qui ne joue pas beaucoup de matchs, puis quand ils jouent, c'est jamais très très excitant. Là,
c'est sur un feed YouTube bizarre qu'on a du mal à voir.
Exact, là on a un peu plus de couverture, on connaît un peu plus les ceux qui sont sélectionnés au Canada, mais il n'y a pas juste ça. On s'intéresse aussi à d'autres sélections. À la Coupe du Monde, on avait Dizel Miley, on le voyait, on le connaissait, on savait son potentiel. Simon, il jouait un peu moins, mais on est surtout en début de carrière à Montréal, on suivait beaucoup la Belgique. Là, on a Saphir. Au moins, ça élargit. Le foot, c'est ça qui est bien, même si ça va. Disons que ça va pas bien à Montréal, c'est pas grave. Grâce à Montréal, on peut s'intéresser à d'autres choses.
C'est un très bon panel de temps, puis c'est le rattachement avec le joueur à ton club, pour suivre une sélection nationale qui te fait découvrir un autre football. Peut-être, je vais être fan de la Belgique ou je vais être fan de la Corée du Sud si t'es un Coréen. Tu fais un lien avec d'autres types de football, d'autres.
Et éventuellement, on ne servira plus à rien parce que quand l'Impact de Montréal va te chercher un joueur, on n'aura plus besoin du couscous pour péripérer, pour expliquer qui c'est ce joueur parce qu'on va l'avoir vu ailleurs.
Exactement.
Tranquillement, on prépare notre départ.
Notre pré-retraite, elle est déjà là. Donc, on va être obsolète dans pas longtemps. Donc, merci tout le monde d'écouter les podcasts du Cannes Football Club. Donc, vous êtes au couscous péripéri. On va parler de la victoire de l'Impact 3-0 face au Red Bull de New York, au Stade Saputo. L'Impact est chaud, l'Impact joue bien, le Stade Saputo était en fuego. Donc on va commencer tout de suite avec ce qui se passait au match. Donc 3-0, un but de Rodfani à la 30e minute sur corner. Bakary Sagna à la 38e aussi sur un corner, une déviation. Je ne sais pas si c'était un centre ou un corner, mais c'est une déviation de Raïtala qui dévie le ballon de la tête vers le deuxième poteau.
Il l'a remis au deuxième poteau.
Il l'a remis, c'est ça, déviation, excuse-moi. Il a remis la balle d'une tête au deuxième poteau, l'excellent Raïtala pour Sagna qui fait le finishing fatality move sur le gardien Luis Robles de Red Bulls et Piatti dans les arrêts de jeu à la 90e plus 3 ou 4, il finit les Red Bulls 3-0 sur un très beau but de l'Argentin. Donc voilà, un gros match de l'Impact de Montréal. Juste rapidement, l'alignement partant pour du contexte du côté de Red Bulls, un 4-2-3-1, Robles dans les buts, Lawrence, Long, Escobar, Ladd en défense, Davis, Rajalski au milieu de terrain, Royer, Gamara, Etienne en soutien de Wright Phillips, Bush, Sagna, Fanny, Raïtala, Lovitz pour l'hexagone montréalais en défense, Azira, Piet, Tider au milieu de terrain, Silva, Amariqua, Piatti devant. Donc ça met un peu en contexte le match. Donc Shakington, t'étais pas physiquement au stade cette soirée-là.
Non.
Mais je t'avoue, là, dès le coup d'envoi, même si le but est arrivé à la 30e minute, l'ambiance au Tsatsa Puto.
Oui, c'est ce que tout le monde dit.
Il y avait un air de série. Tu sais, le fameux match de barrage contre Toronto, là, le 3-0. Je sentais cette énergie qui commençait.
Donc, ceux qui étaient présents, c'était les hardcore, c'est ceux qui comprennent l'importance du match, sont pas juste en colonie de vacances.
Exactement.
Les spectateurs qui étaient là, c'était la base. C'est ça que tu es en train de dire.
Il y avait un gros engagement.
Tant mieux.
Un grand engagement, c'était intéressant. Puis juste un petit bémol que toi tu remarques, que je t'ai fait remarquer qu'on a vu un match une fois ensemble ou deux fois cette année.
Mm-hmm.
Disons deux fois pour du fake news, on va dire deux fois. quelque chose qui me dérange un peu, okay, un petit aparté avant de rentrer dans les évaluations. Les ultras d'un côté, puis de l'autre côté, le groupe 1542.
Ouais.
Les deux, de façon individuelle, font un travail excellent, on est d'accord. Mmh. Chacun met l'ambiance à sa façon, avec sa propre culture et identité. On est d'accord.
Mmh.
Linton, tu ne stresses pas là.
Non, j'ai hâte de voir.
Je ne crée pas une guerre nucléaire, mais il se peut. C'est juste qu'un truc que je trouve
Au moins, on n'est pas live. Si tu dis une connerie, on peut couper.
Ouais, mais j'ai vraiment
ça
pas le temps.
Ça arrive jamais.
J'ai pas le temps de faire du editing aussi complexe. Moi, c'est début, fin. Donc voilà. Donc, d'un côté les ultras, le côté 1542. C'est juste que pendant le match, la désynchronisation.
Ah.
Des chants entre les deux, que je sais pas, je pense pas qu'il y ait une communication entre les deux groupes, mais quand les ultras commençaient un chant qui est plus général pour le stade, mais après le 1642 font un autre chant, donc moi j'écoute ça, c'est un peu cacophonique, et vice versa, quand les 1642 commencent un certain chant, les ultras font autre chose. En tout cas, moi je connais pas la relation des groupes, je connais rien en être un ultra ou être un supporter qui fait des chants et qui participe. Tu sais, moi j'étais avec toi, tu m'as vu, moi je suis assis, je suis comme ça, je veux pas chanter tout le temps.
Toi et moi, on est vieux.
Exactement, on est vieux et grincheux. Mais surtout grincheux. Et je trouve ça un peu vraiment. Ça m'emmerdait, là. Je trouve que c'est vraiment un peu la zizanie à mes oreilles. C'était la cacophonie. Je trouve, d'un côté, ils chantaient IMPACT, là, les ultras. Puis, ça se rendait, ils chantaient autre chose, là. Donc, je trouvais qu'il y avait un conflit. C'est peut-être normal dans un stade. Moi, j'ai pas vu des matchs en Europe, là, live, là. Donc, j'ai aucune idée de comment est l'ambiance dans un stade, là où je suis. Je parle pas à la télé, dans un stade. Donc, c'est un peu mon bémol. Je pense que c'est mon gelard d'un foin, sans que je le sache.
Mais tant que ça reste à ce niveau-là, c'est bien. Moi, ce que je trouve malaisant, je vais dire, en tant que spectateur neutre, Trump. C'est quand je vois qu'il y a une partie du stade qui est revendicateur puis que l'autre est en train de fêter le match et de fêter la gloire de l'Impact. Là, je trouve ça malaisant. Mais tu sais, peut-être c'est le fait aussi, tu sais, toi et moi, on se retrouve en plein partie centrale du stade, puis là, on voit aussi, tu sais, peut-être que quand t'es plus d'un côté, que t'es du côté du 1642, puis qu'ils sont en train de faire un certain type de chanson.
Normal.
Si les ultras, ils font leur truc de leur côté, tu t'en rends pas compte non plus. Voilà, c'est plus ou moins grave.
Peut-être qu'il n'y a pas de conflit, justement. C'est pourquoi j'ai mis un bémol, c'est peut-être là où je suis.
On s'entend qu'on se retrouve, puis c'est pas négatif, là, ce que je veux dire. On se retrouve avec vraiment deux pôles opposés, pas juste physiquement, mais au niveau philosophie aussi.
Ouais.
Moi, je trouve ça très, très intéressant de voir ça, des comportements totalement différents, puis c'est probablement pour ça aussi qu'il existe ces deux groupes-là.
Tout à fait.
Il y a une culture, il y a une façon aussi de vivre le foot totalement différente d'un côté et de l'autre. Et c'est bien parce que peu importe où tu te situes, tu peux te retrouver. Et il n'y a pas de conflit entre les deux. Là. C'est pas
non,
ça du tout que je suis en train de dire. Là.
Bon,
ils sont positionnés dans une façon de faire. Puis tant mieux. Puis mais ça arrive de temps en temps. Quand c'est un match hyper chaud, quand il y a un résultat qui est aussi hyper intéressant, le stade va réagir à l'unisson. Là.
Exactement. Mais
peut-être que ça manque un peu plus de...
Juste une fois de temps en temps.
D'interaction, ouais.
Peut-être une fois par mi-temps, deux fois par mi-temps. Une fois par mi-temps, mais faites une synchronisation. Faites ce que vous voulez. En fait, m'écoutez pas. Je parle tout seul. Donc, ceux qui veulent écouter, ceux qui veulent juste entendre ce que je dis, entendez-moi. Si vous voulez écouter et réagir, faites-le. Mais Ultra SS42... décider d'un chant, chacun son propre, chacun alterner les chants entre vous deux. Toi tu chantes le mien, moi je chante le tien, mais on fait ensemble une fois par mi-temps. Voilà, moi je suis
lancé l'idée, t'es éditeur.
Voilà. Moi je suis un secrétaire de l'ONU, je veux la paix, je veux une égalité. Mais bon, tentant l'égalité, c'est pas une bonne chose. Bon, je viens de donner mon général d'infant pour l'évaluation de ce match. Donc, Sapodor, votre meilleur joueur, Tropoutine, votre pire joueur. Et général d'infant, le moment qui vous a marqué, ben, pour moi, mon général d'infant, c'est la cacophonie entre les Ultras et SS42, d'où je suis assis, où chacun chante des chants différents. Donc, moi, ça me rendait confus. Nilton, pour toi, ton Sapodor, s'il te plaît.
Moi, mon Saputo d'or, c'est pas original, mais peut-être dans ce match-là, ça le devient original. Pour moi, clairement, le Saputo d'or, c'est Piatti, parce que même si les deux premiers buts viennent des défenseurs, celui qui a provoqué ces deux buts-là, c'est Piatti. Le but de Sagna, c'est Piatti qui va chercher une faute à la limite d'une simulation, mais il est assez intelligent pour prendre conscience qu'il se retrouve dans un secteur clé pour gagner une faute. Il s'en va au contact, il gagne la faute. Même chose pour le premier but de Fanny. On le voit là, surtout à la reprise télévisée. Il fait la petite touche pendant que l'autre il fait un tacle glissé. Il fait tout simplement une petite touche pour éviter. Dans le fond, tu sais, il ne concède pas une remise en touche. Il essaie jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde de garder le ballon. Grâce à ça, on obtient un corner. Encore là, on marque un but là-dessus. Et en plus du but refusé, il y a son dernier but. Piatti, à Montréal, cette saison, c'est un joueur totalement différent du Piatti à l'extérieur. Ça va peut-être devenir un enjeu si jamais on fait les playoffs à titre de cinquième ou de sixième équipe classée. Piatti, on veut toujours s'éviter de la nacho-dépendance. Quand on voit que des défenseurs marquent un but, on se dit finalement, on est de moins en moins nacho-dépendant, mais correct, et c'est correct, d'être nacho-Piatti-dépendant parce que c'est l'élément déclencheur de tout danger offensif.
Puis, il est dans le top 5 des buteurs MLS. À part la grande avance de Jesus Martinez, il est très proche des autres attaquants. Hein. Donc, faut pas faire semblant.
Et on l'a vu, là. Encore là, on l'a vu, le Nacho Piatti sur le côté gauche versus les 45 premières minutes à Toronto.
Oui, c'est vrai. Et puis, Toronto, c'était son positionnement, mais aussi l'équipe. Voilà, 30 minutes, on fait manger par Jovinko, puis c'était fini. Donc, c'est psychologique. Pour vous rappeler, Martinez, 28 buts. Il a battu le record MLS en tant que meilleur buteur dans l'histoire de la Ligue sur une saison. Zlatan, 16 buts. Wright Phillips, 16. Zardes, 15. Et Piatti, 13. Donc, Piatti, c'est pas l'attaquant pointe, puis il marque 13 buts quand même.
Et c'est lui qui les provoque, ces situations de but, tout seul.
Oui, en général, oui. sauf quand c'est une passe de Tider, qui est peut-être jamais arrivé, je pense.
on va vérifier ça.
On va vérifier. Donc, c'est ça. Oui, Piatti, moi, je... Piatti le mérite là, mais je vais choisir quelqu'un d'autre. Je vais prendre Sagna. Je pense qu'elle fait un gros match en termes de volume. Il a fait vraiment le box to box latéral quoi. Il a fait son travail. Il était c'est une belle métaphore. Hein. T'as aimé?
Oui, c'est bon. J'aime ça. Ouais. Ah, tu me surprends encore. C'est le succès. C'est le secret de notre couple.
Ah, quel couple. Quel couple. Un couple qui est disponible les dimanches pour faire des émissions sur des ondes hertziennes. Le message est passé, mais Sagna, je trouve qu'elle fait un gros match en dehors du but là, c'est super. Mais en termes de son impact, que défensivement, comme il s'est jamais fait avoir. Et encore une fois, c'est l'effet du Sad Saputo. À la maison, comme pour beaucoup de clubs, t'es bien chez toi. À l'extérieur, c'est plus difficile. C'est pas le Real, c'est pas le Barça, c'est pas Atlanta entre guillemets sur certains matchs. Pour dire que tu vas dominer tout le temps ou le TFC de l'an dernier. Quand t'es chez toi, t'es bien à l'extérieur, t'es moins bien. Mais donc ça fait du bien pour le moral. Ah, c'est bon pour le moral. Du côté du Tropoutine, monsieur Georges.
C'est difficile, hein.
Ah, ça gagne. Il y a pas, tout va bien.
Tu sais, au départ, quand je regardais le match, Silva me décevait, mais à mesure que le match avançait, tu sais, oui, c'est pas un match parfait de Silva, mais il compense tellement avec beaucoup de points positifs que tu peux pas lui donner un trou de poutine à Silva. Par défaut, je vais être obligé de lui donner à Quincy Américois parce que, bon, tu sais, il fait le boulot au minimum, mais ça reste que c'est un avant-centre, lui aussi. Qui sert à rien offensivement. T'sais. On a beau dire, ah, c'est beau, il gagne, c'est un beau point d'appui, il bouscule les adversaires, il fait des courses, mais je veux dire, un avant-centre qui fait juste ça, c'est pas utile. Il faut d'autres situations. Puis s'il faut en choisir un dans le 11, on s'entend, il n'y a personne d'autre qui a moins bien fait que l'Américois.
Oui, dans le 11 partant, oui. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est le moins bon. Donc, ouais, c'est le trop petit du match. Je te rejoins sur cette définition-là. Mais moi je n'en donnerai à personne parce que, justement, ce qu'il fait comme son jeu de haut but, comme point d'appui, il l'a très bien fait.
Oui, mais s'il faisait pas ça en plus, ça serait une catastrophe. Là.
Oui, exact. C'est vrai.
Mais c'est parce que là, on est rendu avec une grille d'évaluation tellement faible. On a enlevé tellement de lignes de nos grilles d'évaluation pour en avançante là, qu'on dit « Oh, wow, il court. »
Il court, exactement.
J'espère qu'il court. Yeah. Ça reste un avant-centre où son rôle premier, c'est de provoquer offensivement.
Mais le seul hic pour Américois, c'est pas contre lui, mais par rapport à ce qui voudrait faire, c'est que l'impact dans l'axe contre les Red Bulls, il n'y avait pas grand-chose. Même s'il y avait Tider qui jouait très haut, un peu dans l'axe.
Ouais. Les Red Bulls, éventuellement, ce qui va être intéressant à faire là, quand on va s'ennuyer, disons, dans la... si on veut faire un CCPP dans la saison morte, c'est de deviner, disons, quel serait, pas nécessairement le nom, mais le profil le plus intéressant comme avançant dans cette équipe-là.
Ouais. C'est quoi qui marcherait si l'effectif ne bouge pas en ce moment? Quel attaquant on pourrait rajouter pour que ça fitte bien?
Oui, on peut donner un nom pour donner une idée de profil sans nécessairement dire qui vient. Mais c'est clairement pas n'importe quel attaquant qui pourrait bien fonctionner. Si je regarde la façon qu'on fonctionne, mettons aujourd'hui avec Azira ou Kroliki comme autre milieu central, je ne suis pas convaincu qu'un Divayo serait si efficace que ça dans cette équipe-là.
Non, je suis d'accord avec toi parce que un meilleur attaquant va obliger ses coéquipiers à mieux jouer, à faire la passe au bon moment, plus rapidement, sans perdre de temps, mais il faut que tes joueurs qui puissent le faire. Si t'es pas capable d'exécuter, c'est ça. Donc ça, c'est hypothétique, mais c'est intéressant de faire ce débat durant la saison morte. J'avoue que c'est un bon point, Nilton. Mais Américois, je trouve un peu dur, mais par rapport à notre grille, et par rapport à Troupoutine, c'est le... Voilà quoi, je vois pas pire là. Donc, mais voilà.
Tu peux dire Mathéo, parce que c'est le 12e qui est rentré, puis il a été encore plus mauvais que l'autre.
Donc on mettra un Mancuso, allez hop, c'est décidé. Et pour toi, est-ce que t'as un Gilard d'Infoin de ton côté?
Pas vraiment. J'étais pas au match. Non, pas vraiment.
Parfait.
Je me suis censuré juste à temps.
Excellent.
J'apprends.
Excellent. Du côté du public, Jonathan Varin, son Saputo d'or, at JVarin25, Saputo d'or Fanny, quel match. Troupoutine, Sylvain, malgré ses deux passes et son bon match. Gilard d'Infoin, l'arbitre qui riait de Piatti quand il contestait une faute sur laquelle le joueur avait très clairement plongé. Ah, et aussi pour zéro carton. Sofiane Tahir, at Souf92, Saputo d'or, la paire Fanny Raitala. Troupoutine, la défense de New York Red Bull. Gilard d'Infoin, Américois en mode animal. Ouais, ça c'était marrant là, quand il s'est mis accroupi à quatre pattes pour mettre du pressing sur un joueur des Red Bulls.
Ok.
C'était marrant. champion du monde, at Lyon, Lio Son 169, Saputo d'or, le duo étoile français de IMFC. Troupoutine, le Red Bull qui avait plus d'ailes. Chapeau, bien joué. Gilard d'Infoin, Tider, les buts ouverts ou les poteaux. Ouais, sur ce but-là, Tider, les buts ouverts, c'est pas bien. Il faut que ce soit difficile, sinon il marque pas. C'est mon excuse pour lui. Non, c'était vraiment nul. Là. Moi, ça me dérange quand il marque pas un but simple, mais qu'est-ce que vous voulez Et voilà.
Au moins, il est là. Au moins, il est dans la surface.
Voilà. On se console comme on peut. Mais ce qu'il a fait, c'était nul, là. Mais. C'était très décevant. François Turcotte, que je salue, at François Turcotte 10, qui m'a dit un grand bonjour au stade. Salut François, c'était aussi un plaisir de t'avoir croisé à l'entrée sud, l'entrée Saphir Tider. Saputo d'or, Piet, le nouveau Iron Man IMFC et à l'ensemble de l'équipe. Troupoutine, les 4 arbitres pour l'ensemble du match. Gilard d'Infoin, le VAR, jamais d'explication. Très bon point, l'explication du VAR. Il faut que la MLS commence à expliquer au public ce qui est arrivé le plus rapidement possible. Donc, il fait référence à la première version du 3-0 du but de Piatti qui a été refusé pour hors-jeu. Je pense que c'est une frappe de Tider qui a touché le poteau, je pense, qui avait engendré ça. Et puis, il participait avec son frère.
On l'a jamais su exactement. Est-ce que c'est la présence d'Américois devant le gardien qui
Moi, je pensais que c'était ça, mais on ne le sait pas. Peut-être les pro-referees, l'association des arbitres en Amérique du Nord, du moins ceux qui régissent la MLS et la USL, vont peut-être diffuser quelque chose sur leur site web. Dommage pour Piatti qui avait célébré le 3-0 ou le but du 3-0 qui a été refusé ensuite avec son frère qui était au stade à ce moment-là. Donc, merci tout le monde de participer avec les hashtags. Un gros merci aussi, par exemple, à Emma Lorimier, Tige Tournesol, Danny Bouchard, Neosque, Anthony Bellil, JTop07, Machi Bouzouk, Benoît Normand, JM Côté et tous les autres qui participent. Merci beaucoup à tout le monde. Vous êtes vraiment des dizaines. Je peux pas vous compter, mais je vois peut-être au moins 20, 30, 40 interactions faciles depuis la diffusion du tweet pour faire évoluer. Donc, merci beaucoup de nous suivre. La meilleure façon de nous suivre, c'est Twitter Cannes Foot Club, Facebook Cannes Football Club et pour les podcasts sur vos plateformes de podcasts préférées, Cannes Football Club Plus. Bon, Joao, San Joao Jorge.
Bonjour.
Joao, maintenant, okay. On va parler des questions du public.
Je pensais que tu voulais parler de la grande victoire de Santa Clara en première division portugaise. Non?
Ah, okay. On peut faire ça aussi. Est-ce qu'ils ont joué contre Braga? Ils ont joué contre Braga?
Non, ils ont reçu Boavista.
Ah, Boavista. Ah, c'est une belle ville, Boavista.
C'est Porto?
Oui, je veux dire, c'est la banlieue, pardon.
C'est un grand ancien club. Bref, en tout cas, je trouve quelqu'un pour faire un podcast portugais et l'écouter, parce que je ne suis pas tant que ça expert de foot portugais.
C'est ça, mais Boavista, c'est la banlieue de Porto? Ou c'est un quartier? Je jurais que c'était une banlieue...
C'est une bonne question, là, je vais avoir l'air fou.
C'est correct.
Moi, je sais juste que... c'était toujours le quatrième club là, à l'époque quand j'entendais mon père écouter le foot sur le shortwave. Il y avait toujours le quatrième, Boavista, qui a été un des seuls dans les 20-30 dernières années à être champion Portugal en dehors des trois gros.
Oui, c'est vrai.
Il y avait Petit, tu te souviens de...
Oui, Petit, le milieu de terrain.
Qui jouait là, etc. Ouais. Bref.
Mais j'avais une photo de Boavista. Je ne sais pas si c'était un quartier ou c'était une banlieue ou c'était juste une rue à Porto qui s'appelait Boavista. Tu me suis trompé.
Il va falloir éventuellement que j'aille faire un voyage là-bas pour tout vous expliquer ça.
T'as pas le choix.
T'as pas le choix. On passe aux questions?
S'il vous plaît.
D'accord. Louis-Philippe Rouleau nous demande comment passe-t-on de son pire match à Toronto pratiquement à son meilleur de l'année?
Vas-y, si tu veux commencer, Nilton, moi.
Mais probablement, c'était pas nécessairement notre pire match à Toronto. Ça a été, on l'a expliqué lors du dernier podcast, là, ça a été comme circonstanciel. On a affronté un joueur qui a été en réussite totale, qui est Jovinko, et ça s'est fait en 20-30 minutes, c'est tout. C'était pas une indication de la forme de l'Impact de Montréal à ce moment-là. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Là.
Non, je suis d'accord. Ça, je te rejoins à 1000%. Puis on peut aussi ajouter le fait que les attentes par rapport à cette rivalité étaient tellement hautes que après trois minutes, on s'est dit c'est bon, tu peux éteindre la télé, c'est fini. Et malgré ça, l'Impact aurait pu faire 3-3 facilement en plus. Donc,
mais ce qui est bien, c'est samedi contre New York. Ils ont obtenu, selon moi, un résultat pratiquement inespéré. Là. Les Red Bulls ont commencé la saison avec une fiche de 3-3 parce que comme Toronto, ils étaient pris dans la CONCACAF, ils devaient gérer l'effectif. Mais depuis ce début de saison, ils avaient quoi? 3 défaites, c'est tout? Dans 20 matchs? C'était une équipe qui roulait vraiment à fond.
C'est une machine.
Exact. Et ils avaient préparé ce match-là à Montréal en reposant des éléments clés, dont Wright Phillips et Kaku. Donc, avant que ce match-là débute, et même pendant que le match a débuté les premières minutes, on a vu la différence entre les deux clubs. La grosse, grosse, grosse différence avec Toronto, c'est que pendant ce match-là, pendant qu'on subissait et qu'on avait un genre de taux de possession à 65%, 35% en notre défaveur, c'est le bloc défensif a fait en sorte que même si on subissait, on était assez à l'aise, mais il y avait rien de dangereux qui se faisait du côté de New York. Il n'y a pratiquement aucune passe qui traversait la surface de réparation. On a été patient. Contrairement à l'habitude de New York, ça c'est peut-être à cause de la fatigue. Tu sais, oui, on a le cliché que New York, c'est beaucoup de pressing. Mais moi, quand j'ai vu le match en différé, j'ai porté attention à ça. Puis du pressing, il n'y en a pas eu tant que ça.
Non, il n'y a pas beaucoup. Et en plus, l'Impact jouait très bas au début. Ils jouaient assez bas. Et puis honnêtement, ils ont pu profiter. Dès qu'ils ont marqué le premier but, la copie a arrêté. Je pense que ça a ouvert les valves. Ça a ouvert les vannes. Puis les Red Bulls n'ont jamais su réagir par rapport à leur talent, puis même s'il manquait quelques joueurs. Mais ça ne change pas que l'Impact jouait assez bas. Donc, ils ne voulaient vraiment pas laisser d'espace.
Oui, et la différence, c'est qu'un gars comme Azira, il est beaucoup plus technique qu'un Kroliki, il est beaucoup plus mature, il a l'expérience, donc il n'était pas en mode panique une fois avec le ballon.
Il joue simple.
Il joue pratiquement à côté de Piet. Oui, on avait le schéma habituel, mais si on regarde la position moyenne des joueurs, Azira était pratiquement à la même hauteur que Piet. Et ça faisait l'affaire de l'Impact de Montréal.
Exactement. Et en plus, le bonus, c'est que... comment dire, pas le bonus, mais ce que je remarque, c'est que Brad Gerald Phillips n'est jamais bon au Stade Saputo. Et c'est rare qu'il m'impressionne au stade. Les Red Bulls ont peut-être jamais gagné au stade. Ils ont peut-être
ça a toujours été bizarrement compliqué pour eux au Stade Olympique.
Exactement, c'était jamais intéressant. Puis l'histoire donne raison à ce résultat-là. Mais voilà, c'est Royer, celui qui était un peu plus dangereux à un certain moment, pas pris ses éteints, puis Brad Phillips a été menotté par Fanny. Donc il faut et en plus, les joueurs étaient très remontés là. L'Impact là, ils ont dit la fameuse causerie avant l'entraînement cette semaine, sans un peu parler entre eux. Ils se sont dit bon les gars, c'est bon, on a beaucoup d'expérience dans cet effectif là. Quoi, il y a combien de joueurs qui sont inexpérimentés? Combien il y a quoi? Lovitz peut-être, on peut le considérer inexpérimenté.
Non, mais au niveau expérience MLS, il commence à en avoir quand même pas mal.
Mais en termes de vécu, quand tu compares à Sagna, Fanny, Bush, qui d'autre, Raetala, bon, plus ou moins expérimenté, Piatti, Silva, Tider, Azari, j'ai déjà oublié son nom, Azari?
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça, Azari. Donc, il y a du vécu. Donc les seuls gars, les petits jeunes entre guillemets là, c'est Américois puis Lovit, puis on dirait qu'ils ont 35 ans, comment ils se comportent sur le terrain. Ils ont certaines maturités.
Oui, c'est des gars sérieux. Exact, c'est des gars sérieux sur le terrain.
Exactement, surtout pour des pros, c'est normal que tu es plus vieux que ton âge là, parce que tu commences à faire ton métier assez jeune. Donc voilà, je trouve que c'est juste l'attitude des joueurs et puis le pep physique qui a fait ça. Et je trouve que c'est à prendre en compte hein, et Jovinko, il a fait mal rapidement puis il les a détruits rapidement. C'est ça que fait un joueur comme Jovinko, comme Piatti.
Ben oui,
Piatti
ben
fait
oui,
la même chose. Il en détruit l'esprit des équipes quand il marquait des buts dans tous les mains à l'extérieur. Donc, Jovinko a le droit de le faire aussi. Puis l'Impact était solide. Donc, c'était parfait comme ça.
Anthony Bellet nous demande lequel entre Sagna, Azira et Amariqua est devenu le joueur le plus influent dans le jeu collectif.
Azira, Sagna, Amariqua. Je pense que Sagna, c'est lui qui va gagner. Sur ce trio, j'hésitais avec Azira.
Ouais.
Parce que je trouve qu'il
Azira, c'est la différence. Parce qu'on passe de Kroliki, c'est pas une attaque à Kroliki, mais on passe de Kroliki à Azira. Kroliki, c'est beaucoup d'énergie sur le terrain, mais des fois mal placé. Mm-hmm. Azira, il y a autant d'énergie. Il y a autant de kilomètres dans ses jambes, mais c'est des kilomètres qui peuvent être intelligents. Là.
Ouais. On demandait trois à Kroliki. Et ça, le truc, c'est que aussi Nilton, Tider ne joue pas aussi haut que ça à chaque fois.
Non. Et là, il peut se permettre ça parce qu'Azira va couvrir beaucoup de terrain.
Là. Il a dit Azira après le match. J'étais dans le vestiaire, il a dit moi et Piet, notre job, c'était de faire que Tider soit libre devant. Donc, c'est ça qu'ils ont fait.
Il est habitué à ça aussi. Pas cette saison, mais dans les bonnes années de Colorado, c'est ce qu'il faisait.
Ouais.
Justement, il y a quelqu'un qui m'avait posé cette question-là. C'est quoi la différence et pourquoi Azira, tout d'un coup, s'est retrouvé en USL cette saison? Après quoi? Après une saison seulement? Mais la grosse différence a été un changement total au Colorado. Au Colorado, on a changé d'entraîneur. Ouais. L'entraîneur est arrivé avec sa philosophie, sa façon de jouer. Il voulait exactement... Il a procédé à des changements immense au Colorado.
C'est vrai.
Cronin est parti, il formait un duo avec Cronin au milieu et il est parti. Donc, il se retrouve avec... au Colorado, Azira était habitué de jouer de la même façon que Montréal joue, en espèce de 4-3-3, là, peu importe la façon hybride que tu veux. Son rôle à Azira, ça a toujours clair été un milieu défensif qui soit un peu positionné un peu plus haut ou devant sa défensive, peu importe. Ça a été ça, mais là, il s'est retrouvé au Colorado avec un 3-5-2 où les milieux centraux ont un rôle un peu plus double. Donc, c'est sûr qu'il sort un peu de l'équation. On lui demande d'autres. Mais là, il s'en vient à Montréal dans un rôle où il est habitué, où il se sent à l'aise. Et Rémi Garde, c'est ça présentement ce qu'il a besoin. T'sais, oui, il aurait besoin plutôt d'un milieu offensif, mais il est pragmatique. Il sait que cette saison, c'est pas cette saison qui va régler la situation. Donc, il se dit, je vais être assez à l'aise de laisser un peu l'espace libre à Saphir pour produire ce qu'il peut produire. Et Azeroth va couvrir derrière avec Piatti. Donc, tu sais, oui, Sagna, c'est un gros plus. Ça, on s'entend.
Mais par rapport au collectif, je te rejoins qu'Azeroth, surtout parce que lui et Piet, ils étaient là pour que Tider puisse aller jouer plus haut. Donc, pour le collectif, ça répond à la question d'Anthony. Oui, Azeroth pour le collectif est plus important. Sagna ramène quelque chose de plus qu'un Duval ou qu'un Petrasso ou qu'un Raetala qui joue à droite. Donc, il a ramené quelque chose de plus. Mais Azeroth, on a vu l'impact sur le collectif rapidement parce que le Sagna, c'est un joueur de classe internationale. Là. C'est, bon, c'est pas un ballon d'or, là, mais c'est un grand joueur. Tu fais pas des sélections de l'équipe de France, Man City, Arsenal, juste par erreur. C'est pas parce que t'es nul.
Mais ce qui est bien avec Sagna, c'est qu'il s'insère de façon naturelle dans la défensive de Montréal. Il se retrouve à côté de Fanny.
C'est parfait pour lui.
Il peut communiquer avec soit Diallo, soit avec avec Camacho. Il va s'insérer parfaitement. Ça devrait être assez facile.
Je sais pas si t'as vu que le clip à Camille et Nicolas Martineau, lui le français c'était pas sa première langue. Il est arrivé au Québec, là. Il voulait parler anglais.
Oui, lui il est complètement étonné par le contexte francophone en Amérique du Nord.
Donc
là,
le fait de parler français, c'est assez coquibé. C'est peut-être pas un critère numéro un. Il est habitué à parler italien et à parler anglais.
Oui, exact. Mais il est à l'aise avec ces joueurs-là. Non, il est à l'aise avec Fanny et ainsi de suite. Là.
C'est vrai. Puis surtout, c'est tous des vétérans. Là. Même Raetala, là, c'est, en termes de vécu, c'est un vétéran. Camacho aussi, c'est un jeune vétéran. Mais je pense qu'on a un débat qui arrive entre Raetala et Camacho. Mais moi, je pense qu'Azeroth, pour le collectif, on a vu l'impact direct pour le jeu vers l'avant de l'impact. Du moins, à la maison. On verra à l'extérieur.
Oui, le débat entre Camacho et Raetala, c'est Jeff Sénéchal qui nous pose cette question-là. C'est tellement des joueurs différents. Hein? Raetala, c'est l'efficacité tranquille, si on veut.
Oui, Raetala, il panique jamais. Voilà, t'as bien résumé ça. Raetala, regarde, Rudy Camacho, je vais faire des métaphores, attention, accrochez-vous, OK? Rudy Camacho, quand je le vois jouer, soit je suis en train de voir un film, comme je suis en train de voir je trouve pas de film de référence en ce moment, je vois un film relax où il est en contrôle et tout, où ça se passe bien. Il va avoir l'offensive, donc je vois un côté spartan en lui, là, boum. Mm-hmm. Et de temps en temps, j'ai l'impression que je vois un film de Vinnie Jones ou l'Écossais, là, ou l'Anglais qui joue The Mechanic. Tu sais, le chauve, là, en train de se battre. J'ai l'impression qu'il est partout.
Camacho va apporter un élément supplémentaire.
C'est la relance.
Mais c'est pas nécessaire à tous les matchs non plus.
Moi, la différence entre Raetala et Camacho, c'est la relance. Maintenant, pour revenir à ma comparaison boiteuse qui a mal marché, si Camacho est un mélange de deux sortes de films, action offensive d'un côté et un peu coussi-coussa bordélique parce que il fait des erreurs, il a l'arlan sur le but de Jovinko, mais qui n'a pas l'arlan contre Jovinko? Alors que Raetala, quand je le vois jouer, je sais pas si t'as déjà vu le film de Luc Besson, Le Grand Bleu. Oh. Je sais pas, t'as déjà vu Le Grand Bleu? C'est un film où c'est des apnéistes là, qui vont sous la mer, donc c'est un film très relax. Quand je vois Raetala, c'est comme si je regardais Le Grand Bleu. T'as une belle musique d'ambiance, tu vois Raetala en slow motion, t'as l'impression qu'il va perdre le ballon, mais il va le gagner. T'as l'impression qu'il est en retard, mais il rattrape son joueur. T'as l'impression, il est tout le temps au bon moment. Il me fait beaucoup rappeler à Fanny dans son style très relax. Tu vois Fanny comment il est, jamais il panique jamais. Donc Raetala a l'air de jamais paniquer. Je ne dis pas que Camacho panique malgré mes comparaisons boiteuses à des films que j'ai même pas.
Non mais c'est la prise de risque. La prise de risque est différente.
Oui, la prise de risque est différente. En termes de la relance, Camacho a l'air d'être beaucoup plus confortable à relancer rapidement vers l'avant. Il monte beaucoup plus. Raetala n'aime pas trop monter quand il est en défense centrale. Il préfère laisser ça à Fanny ou décaler à Lovitz ou même directement à Sagna. Alors que Camacho, quand on le voit, lui, si dans notre vue on dit 20 minutes de terrain, il va devenir milieu de terrain. Tu vois, on voit qu'il a l'envie d'aller vers l'avant.
Mais l'équipe a investi en Camacho. Donc, éventuellement, le choix, ça va être Camacho, même parce qu'ils veulent avoir cette complémentarité entre un défenseur central, comme tu dis, un peu plus relayeur, qui va distribuer des ballons, qui ne va pas seulement laisser ce travail-là à Piet, qui n'est pas capable nécessairement de le faire. Tu sais, Camacho va te donner cet élément-là. C'est pour ça qu'il est là aussi. Là.
C'est vrai. Donc, si Camacho n'est pas blessé, ça devrait être là. Mais moi, j'ai une préférence à Raetala. C'est son style. J'aime son style. Il a l'air.
Non, mais on le voit que Rémy Garde, dès qu'il y a un petit doute avec Camacho, c'est fini. Là. C'est Raetala qui est.
Exactement. Et je trouve que c'est un beau joueur. Quand je le vois, il a l'air d'être. Il m'inspire le calme et il m'inspire la confiance. Je ne dis pas qu'il est parfait. Je ne dis pas qu'il va faire trois erreurs en demi-finale de conférence. Il n'y en a pas qui arrivent. Mais ce que je dis, il m'amène de l'assurance quand je le vois jouer. Je sais exactement ce que Raetala peut me donner. Mais vraiment, les paramètres de risque Raetala sont minimisés. Donc, évidemment, si les collectifs flanchent, il va flancher aussi. Ça, c'est normal. Mais je trouve qu'il est bien. Donc, désolé encore pour mes références de film. Là, je me réécoute là, ce que j'ai dit avant, puis c'est n'importe quoi. Donc,
tu feras un editing là-dessus, tu changeras les titres. Jeff nous demande aussi des victoires contre DC, Philadelphie et New England seront suffisantes pour abolir le néo-playoff.
Donc, l'Impact joue contre l'Union le 15 septembre. Et ensuite, il joue contre DC United le 29. Donc, c'est deux matchs à l'extérieur. Et ensuite, New England, c'était le 28 octobre, aussi à l'extérieur.
Mais tu vois, avant de parler de l'Impact de Montréal, là, ça va faire bizarre, là, mais il va falloir parler de DC.
Ouais, il faut que DC...
Dans la prochaine semaine, il va rattraper deux matchs en main. DC s'en va à New York City samedi, et mercredi, ils vont recevoir Minnesota. Déjà là, ça va probablement décider beaucoup de choses, là.
Oui, on va voir si l'Impact peut respirer ou l'Impact doit stresser.
Exactement. Tu sais, le match à Philadelphie, Philadelphie, dans notre tête, on a peut-être la fausse impression que c'est prenable. Mais Philadelphie, là, ils sont hyper solides. Là. J'essaie de voir rapidement c'est à quand remonte leur dernière défaite. Là. Je crois que c'est assez loin, merci. Philadelphie, ils ont perdu deux matchs en à peu près 10 matchs. Là. Ça ne sera pas si évident que ça. Là. Oui, l'effectif de Philadelphie, ça ne fait pas rêver, mais ils sont hyper efficaces. Si on est capable.
Leur dernière défaite, c'est 3-0 contre les Timbers à Portland.
Exact.
Au mois d'août, au 4 août, donc ça fait déjà un mois. Puis sinon, ils gagnent assez régulièrement. Là. Ils ont deux victoires, deux défaites, trois victoires, une défaite. Donc,
C'est sûr que si on est capable d'aller chercher cette victoire-là à Philadelphie, ce qui est bien, c'est pas seulement ceux qui nous courent après, c'est que tout d'un coup, cette cinquième position peut être aussi accessible.
Oui,
la cinquième position n'est pas nécessaire. Être cinquième ou sixième, ça ne change pas grand-chose dans la mesure où on ne sait pas contre qui on va se retrouver et dans la mesure où, de toute façon, c'est un match barrage à l'étranger.
Exactement. Et surtout, ben, si tu es... parce que les deux premiers ont un bail ou juste le premier qui a un bail?
C'est les deux premiers.
Donc, ouais, soit tu joues contre New York City FC ou Columbus. Donc, c'est ton choix en assumant que Philly ne monte pas plus. Donc, mais c'est vrai, et je te rejoins, Nilton, et en plus, c'est que l'Impact n'a pas besoin de viser la 6e ou la 5e. L'Impact a besoin d'espérer que DC United se casse la gueule contre New York City durant le bye week. Donc, toute la Ligue va voir ce match-là. C'est le seul match de la Ligue, je pense, à ce moment-là.
Exact.
Et ensuite, espérer que New England un peu aussi flanche un peu au retour de la trêve internationale. Et si les deux flanchent avec leur match en main, tu te dis, l'Impact, on va quand même gagner notre match, faire un match à la fois, il n'y a pas de problème, mais... on peut respirer un peu mieux. Ça ne change pas qu'au DCGND, l'Impact va être impliqué, positivement ou négativement, ça c'est sûr. Et ça va être un peu fou. Mais DC United, moi je me dis comment ils jouent, puis l'effet Rooney, est-ce qu'ils sont arrêtables? Je me demande.
Mais ça fait beaucoup de matchs consécutifs pour eux. Là, je sais qu'ils perdent Ariola pendant la trêve. Je ne sais pas s'ils perdent d'autres joueurs.
En ce moment, il y a juste Ariola que j'ai vu.
Donc, c'est pas si mal. T'imagines l'inverse, si Montréal avait des matchs en main et qu'ils perdaient Piet, Tider, Aitala, là, ça aurait été des matchs compliqués à gagner. Donc, au moins, ça fut une bonne décision de l'Impact de Montréal de prendre ces journées-là off dans la trêve internationale.
Ouais.
Mais au moins, on se retrouve pas dans une situation où do or die, là, la victoire de ce week-end, combiné au match nul de New England, combiné à la défaite de Toronto qui annule pratiquement la victoire de Toronto sur Montréal. On récupère tout de suite les trois points 7 jours plus tard. Oui, si Atlanta avait pu aller chercher un petit match nul à DC, là, ça aurait été un week-end parfait. C'est ouais. pas le cas, mais on est encore bien positionné. Je sais que toi, tu avais annoncé un no playoff. On a tout ce qu'il faut en main pour les faire, ces playoffs-là.
Non, c'est vrai. Je l'avais annoncé sur 690. On m'a reposé la question quand il y a deux semaines. Sur 690, on me l'avait posé. Puis est-ce que c'est au 99 aussi, qu'on me l'a redemandé récemment? En tout cas, j'ai réitéré que malgré les bons résultats, qu'ils ne feront pas les séries. Donc ça, je l'avais dit, je reste avec ça. Parce que j'y croyais pas. Alors, j'y crois pas du tout à que l'équipe joue assez bien pour rattraper le retard, même après la bonne séquence. Mais aussi, j'ai surestimé Toronto. C'est pas grave, je les aime ouais. bien, j'aime leurs joueurs.
Donc, pas tout seul à l'avoir fait.
Donc j'ai surestimé Toronto, je dis bah, Toronto va rattraper l'impact, puis l'impact va être éliminé. C'est pas grave, ça ne dérange pas d'avoir tort. Mais bon, ça arrive.
Ludwig Philippe nous demande la vraie question, est-ce que Saphir Taider restera à Montréal vraiment longtemps?
Regarde, c'est un prêt de 2 ans.
C'est
un prêt de 2 ans, il appartient à Bologne. Donc si Bologne a besoin de lui, ils vont le reprendre, je ne pense pas.
Non, je ne pense pas que c'est
le cas. C'est sûr qu'il va faire une saison. Maintenant, est-ce qu'il va faire une deuxième? Je ne sais pas. Je pense que oui. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas cette situation. Il a une famille, des jeunes enfants. Je pense qu'il a envie de se déménager à chaque deux jours.
Il commence à s'y plaire aussi beaucoup plus. Là, si on y avait posé la question au mois de mai, probablement qu'il n'aurait pas répondu pour être poli. Exactement. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il trouve que c'est un mauvais choix de carrière.
Mais il ne faut pas oublier son parcours comme le parcours de beaucoup d'autres joueurs. Il a quitté chez lui jeune. Là. Il partait à Bologne à 17 ans, 18 ans, je pense. Ouais. Donc lui, partir et prendre ses bagages à l'ailleurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Même s'il y a une famille. T'sais, les enfants s'agrandissent, une famille s'installe. T'sais, les clubs te payent le déménagement, ils te gèrent tout. Au ouais, niveau émotionnel et psychologique, c'est peut-être dur, hein, le déplacement familial, etc.
Il retrouve la sélection algérienne.
Exactement. Qu'est-ce qu'il demande de plus?
À moins que quelqu'un arrive avec un contrat de 2 millions de dollars pour un club européen, c'est sûr qu'il ne dira pas non, mais je ne vois pas ça arriver non plus.
Exactement. Puis on se demande, est-ce que le futur de Saphir Taider avec l'impact l'année prochaine et une extension possible dépend du futur de Bologne? Parce que est-ce que Bologne qui veut en touche du bois pour jouer au Saputo, moi un peu je m'en fous là.
Je vois où tu veux.
Je touche du bois pour lui et que l'équipe ne se fasse pas reléguer en série B.
Exact.
Il se passe quoi avec leurs capitaux Serie A qui sont pas avec le club? Parce que c'est sûr que dès qu'une équipe va en Serie B, tous les jours, ils ont des contrats, tu es relégué, moi je m'en vais, je suis libéré ou tu peux être transféré. Donc attention, c'est compliqué.
Ah non, pas un nouveau drama cet hiver, s'il te plaît. Non, mais de toute façon, ça ne sera pas cet hiver. Ça va être le...
celui d'après.
Dr. Foot nous pose, comme d'habitude, plein de questions. Une de ces questions, c'est est-ce que Marie-Coire apporte vraiment plus qu'au Duro?
Oui.
Ouais.
Oui, il faut arrêter.
Surtout à cette position-là. Là.
C'est ça. Dr. Food a dû écrire Mancuso. Ensuite, il l'a effacé pour Matur Duro quand il a écrit son tweet. Mais non, regarde. Duro, je l'aimais bien, moi, mais au moins, Gab.
Comme avançante, c'est incomparable.
Non, c'est incomparable. Et aussi titu que Gab puisse être, mais c'est pas grave. Il a fait un choix. Duro ne l'intéresse pas, puis c'est fini. Il n'y a pas de stress. Il a fait son choix, il l'a assumé, puis on passe à autre chose. Américo et Oduro, c'est pas le même métier là. C'est compare Oduro avec Silva, puis tu vois que Silva c'est beaucoup plus intéressant.
Ouais, et puis depuis qu'Oduro est à San Jose dans une équipe qui est très 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 ordinaire, il y a pas beaucoup de minutes là.
Ouais, exactement. Tu sais, San Jose, tu sais, ils avaient besoin d'une place là, de remplir un spot, puis. Ça nous dit,
le profil est tellement différent. Tu sais, je lui ai donné le trou de Poutine un peu par défaut, mais son travail. En dehors de la finition, il a quand même bien fait son travail. Oduro n'aurait pas pu faire ce genre de travail. Là.
Non, puis il ne faut pas le demander. Il faut pas demander ça à Oduro. C'est pas son travail. Il ne sait pas le faire. Américo, il le fait. Donc, il ne faut pas nécessairement comparer des oranges avec des pommes. Ce n'est pas tout le temps nécessaire. Même si on peut faire l'extrapolation, moi, je ne vois pas de valeur ajoutée. Je comprends le questionnement de Dr. Foot, mais je me dis, c'est fini. Là. C'est la vieille histoire. Et de l'année prochaine, garde, il va dégager des joueurs qui peut-être lui-même a pris ou des vestiges qui restent de l'avant-garde. Puis on aura ces mêmes débats, mais il faut passer à autre chose.
Notre collègue Mr. Foot de Foot nous demande est-ce une victoire de l'équipe ou de la tactique de Rémi Garde? Oui, votre analyse de la semaine dernière m'est restée sur l'estomac. Et on était si chien que ça avec Rémi Garde? Peut-être avec son choix tactique. Bref.
Ah bon? Attends, on avait juste dit, genre, Matt Piatti à la, en pointe, tu sais que ça va marcher rarement, mais on avait dit qu'il n'y avait pas le choix. Donc,
Peut-être qu'on avait dit qu'il fallait juste qu'il nous appelle avant.
Ah, okay. Et qu'on lui dise à l'avance que peut-être ça n'a pas marché, c'est vrai.
Non, oublie peut-être. La réunion des joueurs dans l'intimité du vestiaire a-t-elle beaucoup compté?
Moi, je pense à un ensemble, Milton. Tout ça vient ensemble.
Cette réunion-là, on l'a su qu'elle a existé, mais c'est tout. On n'a rien su d'autre.
Oui, c'est vrai, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Milton? On va pas hacker les murs de l'Impact puis avoir des micros puis tout entendre.
On s'entend que s'il y avait eu un autre club à Montréal, avec une réunion d'équipe comme ça où les entraîneurs attendent pendant une demi-heure sur le terrain,
mais c'était...
on aurait eu un peu plus d'infos. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ils se sont parlé pour... Il y avait des critiques à faire. On n'a aucune espèce d'idée.
Peut-être c'était un petit talk pour dire, les gars, c'est la saison arrive à la fin, il y a les playoffs pour ceux qui ne savent pas. Il n'y a pas de relégation promotion, puis on y va. Non, mais regarde. C'est un ensemble, comme dit Monsieur Foot de
Mais
Foot. L'attitude avec la tactique et avec la préparation, ça va ensemble. Si un des éléments n'est pas là, ça ne marchera pas, quoi.
Mais j'ai pas vu dans le langage corporel, dans l'intensité du match, j'ai pas vu une différence entre Toronto et ce week-end. Dans les deux cas... C'est pas vrai qu'à Toronto, les joueurs étaient nonchalants.
Non,
ils ont juste été dominés par un joueur.
Voilà, et c'est ça. On avait dit la semaine dernière, qu'on a enregistré, l'effort était là. Il n'y avait pas un manque d'effort.
Non. C'est juste que... Sagna s'est traîné les pieds un peu. Fanny s'est fait aspirer. Mais je veux dire, ils ont été battus par un petit génie de la MLS. Non?
Exactement. Puis ça a pris 30 minutes. C'est tout. C'est, honnêtement, ce qui est arrivé au début du match contre Toronto, ça a scié les jambes des joueurs. Mentalement, on s'est dit « Merde, on s'est pris deux buts, trois buts aussi rapidement que ça. » Mec, psychologiquement, ça fait mal. Mais l'effort, je pense pas qu'on a critiqué l'effort, mais je trouve que avec les joueurs qu'ils avaient...
Mais ça a été fait, ça a été beaucoup fait. On a beaucoup critiqué le manque d'effort parce qu'on a pris une claque de 3-0.
Oui, j'écoutais les commentaires, que ce soit à la télé ou à la radio, je dis « Ok, bon, j'avais pas vu le match live du moins à la deuxième mi-temps, je l'ai revu après, je dis... » Je trouvais que ce qui s'est dit à la radio, à la télé, puisque je fais le match, il n'y avait pas nécessairement une traduction aussi directe pour dire que les joueurs faisaient n'importe quoi. Je pense qu'ils faisaient n'importe quoi parce qu'ils n'étaient plus dans le match. Puis ils faisaient du rattrapage.
Ouais.
Donc, je trouve que les mêmes attentes qu'on avait par rapport à Toronto, les joueurs qui ont mal joué ont livré cette marchandise. Donc, il s'est passé quoi? Pourquoi le même joueur a joué le même rôle mais a mieux réussi? Moi, je pense que c'est l'attitude en partie, la préparation, puis la remise en question. C'est tout. C'est Toronto. Hein. Le truc, c'est que ce qui me dérange quand on fait des analyses, même moi, je fais ça aussi un peu, mais j'essaie de l'éviter. Il faut bien que je me remonte un peu le moral là, pour me sentir mieux. C'est que il y a quand même deux équipes sur un terrain. C'est pas l'Impact contre des cônes oranges. C'est pas des plots, c'est pas l'entraînement. L'autre équipe, elle existe. C'est du 1 contre 1, c'est du 2 contre 2, c'est des individuels, c'est des passes, c'est des courses, c'est des angles, c'est des instructions qui changent sur le terrain pour s'adapter à l'adversaire. C'est des multifacteurs. Là. Imaginez.
Exactement. On ne dit pas que Fanny a été chanceux de marquer son but parce que son défenseur ne l'a pas couvert. Là. C'est pas ça qu'on dit, là, nous, Exactement. Quand on regarde le match. Là.
Exactement. Il faut voir les deux revers de la médaille. Il faut voir les deux vérités. Ensemble, la vérité de l'adversaire et celle de ton équipe. Puis tu essaies de te mettre dans leur situation. C'était supporter. C'est parfait. Ah, ils étaient nuls, ils n'ont pas assez joué, ils ont couru moins vite. Parfait, c'est ta conclusion et tu as probablement raison. Mais moi, ce que j'essaie de faire, je pense que tu fais la même chose, c'est qu'on essaie de voir les deux perspectives. On se dit, ben, pourquoi il a perdu le ballon? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi la situation? Est-ce qu'il a fait une mauvaise passe? Oui, ok. Est-ce qu'il a été forcé de faire une mauvaise passe? Est-ce qu'il a été... Il y a plein de facteurs. Donc. Et les bonnes équipes, c'est ceux qui font le moins d'erreurs possibles, qui exécutent leur façon de faire et qui jouent mieux. Jouer mieux, c'est chaque club a sa définition de mieux jouer, de bien jouer. C'est pas juste le Barça, le Real et le Bayern de Munich. Chacun a sa propre façon, mais voilà, quoi, c'est pas l'Impact contre X. Là. C'est des joueurs en face. Donc, il faut prendre ça en compte aussi.
Matteo Marquez nous demande, est-ce que la performance de Fanny hier soir, samedi soir, confirme sa présence en 2019 comme défenseur central ou Rémy Garde voudra compter sur un effectif un peu plus jeune avec Diallo, Camacho et Fisher?
Je ne sais pas ce que tu en penses, Hilton. J'ai du mal ouais. de voir Garde ne pas renouveler Fanny.
Impossible. Je sais que moi, en début de saison, j'avais dit que la présence de Fanny avec le salaire qui commandait et ses pépins physiques, c'était peut-être pas une bonne idée. Et visiblement, j'ai l'air complètement fou aujourd'hui parce que Fanny est capable maintenant d'aligner des minutes.
Non, tout à fait. Non, mais ce que tu aurais dû faire, Hilton, c'est ne rien dire. Et quand tout arrive, tu aurais dit « Ah, je vous l'avais dit.
» Je préfère l'inverse. Okay. Non, mais Fanny, on l'a toujours dit. Fanny sur le terrain a le potentiel d'être un des meilleurs défenseurs centraux de la MLS.
Facilement.
L'enjeu principal et ce qui explique aussi sa présence en MLS avec l'Impact de Montréal, c'est sa condition physique, c'est sa capacité d'aligner des minutes comme ça.
Exactement. Et c'est par rapport à des blessures de répétition, des blessures de...
Exact. Et, ouais. et c'est à ce moment-là que la présence d'un Diallo avec Camacho ainsi que Fanny a du sens. Parce qu'on peut décider quand utiliser nos défenseurs centraux.
Tout à fait.
Avoir une rotation dans une équipe, c'est pas du luxe, c'est logique.
Tout à fait. C'est comme ça que tu construis une équipe qui gagne.
On n'a jamais été habitué à l'Impact de Montréal. À chaque fois qu'on entendait des rumeurs à gauche à droite d'un joueur, on ne comprenait pas pourquoi on disait ce nom-là parce qu'on avait X à cette position, on avait Y à telle position.
Tout à fait.
Dit, finalement, il ne jouera pas. Non, il faut toujours avoir un joueur sur le banc capable de faire aussi bien, voire mieux potentiellement. Mm-hmm. Donc, ce trio-là, qui est le trio de Diallo, Camacho et Fanny est logique pour 2019, surtout avec... Et en plus, on le voit, Camacho, c'est lui présentement qui est le point d'interrogation au niveau physique. Il a toujours un petit pépin.
Toujours.
Et Diallo va rester un pépin. Ses blessures, c'est pas des blessures anodines. Là. Il peut retomber à tout moment.
Exactement. Et par rapport à l'historique qu'il a, oui, il faut faire attention avec ça. Camacho, c'est 14 matchs. Hein. Mm. C'est 14 matchs. Il a déjà Camacho... Il n'est jamais rentré en tant que remplaçant. C'est rare pour un défenseur central. C'est rare qu'un défenseur central rentre comme remplaçant. 14 matchs, 14 titularisations. Donc, pour un joueur qui est là depuis le mois de... Disons qu'il est disponible depuis le mois d'avril, entre guillemets. Disons, avril. C'est pas beaucoup.
Non.
C'est pas beaucoup pour un investissement, pour un transfert de target allocation money... pour un salaire assez haut, pour un salaire qui est quasiment du salaire d'épée probablement, si on suit sur les fiches PDF du syndicat des joueurs. Donc, est-ce que c'est assez? Moi, j'ai l'impression que non, mais on verra. Mais c'est des blessures à répétition pour un garçon aussi jeune, il y a 27 ans, qui a les mêmes patterns de blessures que des Diallo ou que des Fanny qui sont beaucoup plus vieux. Donc, je trouve ça un peu gênant, mais bon. On espère que c'est pas des blessures. Si c'est des blessures musculaires, c'est peut-être récurrent, mais j'espère que c'est rien de grave là, parce que si c'est grave, l'investissement que l'Impact a fait, c'est dommage. C'est surtout pour lui l'investissement personnel là, de changer sa carrière. Il était bien en Belgique, là. Personne lui demandait de partir. Puis on va voir ce que ça va donner là. Mais son potentiel est intéressant, mais j'en ai un peu marre de voir des blessés souvent, puis on a du mal à voir le potentiel de cette équipe-là entre guillemets.
Justement, je pense que je l'ai perdu cette question-là, mais quelqu'un qui nous posait des questions sur la condition physique, là, l'endurance, tout ça des joueurs cette saison qui n'est plus nécessairement un enjeu.
Oui.
Ouais, on la voit aussi la différence. C'est, oui, on a. C'est difficile à savoir qu'est-ce qui est l'ampleur de la vérité ou pas. Là. Tu sais, quand on a entendu parler de Quincy, il trouvait que les entraînements étaient vraiment très, très compliqués puis qu'il expliquait un peu sa. Le fait qu'il ne soit pas titulaire, là, qu'il n'était pas habitué à ce rythme. J'ai toujours un peu de misère à avaler ça. Là. Comme quoi, on serait les seuls clubs professionnels dans MLS à avoir des entraînements un peu relevés. Là. L'équipe... Ce qu'on reprochait à l'équipe de Montréal, c'était les blessures. C'était pas nécessairement le fait qu'ils avaient l'air essoufflés. T'sais, oui, il y avait des joueurs qui avaient l'air essoufflés, mais il y en a encore aujourd'hui. C'est juste qu'ils jouent pas, ils restent sur le banc, Jason Vargas. L'équipe réussit pas nécessairement avec sa capacité physique. Là. C'est pas ça le principal atout de cette équipe-là. C'est pas la capacité physique. C'est d'autres choses. Là. C'est sa capacité tactique qui s'est améliorée.
Oui, c'est vrai. C'est... il a pu combiner son schéma tactique, son modèle de jeu, je parle de Rémy Garde, avec l'intensité qu'il recherche des joueurs. Parce que lui, il recherche l'intensité. Il a dit souvent. Il recherche l'intensité, l'exécution.
Oui, oui.
Donc...
mais je veux dire, c'est pas eux qui ont créé Alejandro Silva. Là. Lui est arrivé déjà top fit. Là.
Exactement, exactement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Hamilton. Et quand on prend ça en compte, on se dit que c'est la synergie qu'on s'attendait. Parce que, encore une fois, Azira, le fait que l'impact joue mieux, le fait que l'impact a l'air bien qu'on les Rabouze et Azira était là, c'est pas nécessairement une coïncidence.
Non, c'est mais lui, il est arrivé avec cette capacité lui-même. Là. Il avait cette capacité physique. Tu sais, s'il avait transformé nos joueurs de l'académie en des machines de guerre sur le terrain, là, on aurait vu la différence. Là.
Ouais. Non, c'est vrai, mais je te rejoins sur ça. Ça, c'est un bon point par rapport aux jeunes de l'Impact. Mais moi, je trouve qu'il y avait des manques quand même. Bon, il y a les manques, il n'y a pas d'attaquant. Il y avait des manques, il n'y a pas trop milieu offensif. OK, parfait. Mais aussi des manques où les gens n'étaient pas nécessairement ils n'avaient pas nécessairement le bon rôle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on prend ça en compte...
Je dis ça parce que quand je regarde Matteo Mancuso cette saison, il a l'air brûlé plus vite qu'avant. Est-ce que c'est le poids de l'âge ou c'est le fardeau des entraînements? T'sais? Ça peut aller dans les deux sens.
C'est peut-être les entraînements. C'est un joueur qui est assez en forme, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus la confiance qui n'est plus là. Hein.
On parle à travers nos chapeaux parce qu'on n'a pas de données là-dessus. Là.
Ben exactement, on spécule, donc on se dit, tout ce qu'on fait, c'est qu'on se base sur des impressions, les nôtres, et celles que les gens ont, donc ils posent des questions, donc on spécule. Mais à la fin, honnêtement, il y a certains joueurs qu'on s'attendait à beaucoup plus, puis je trouve, on le voit, quoi. Piatti a tout le temps été en forme, il n'a jamais été un problème. Exact. Silva... on connaissait ce qu'il pouvait faire, mais il a pas très bien joué. Et puis même contre Toronto, Garde a dit j'aurais pas dû peut-être le faire sortir si tôt que ça, mais j'étais pas content avec lui.
Donc, finalement, on avait pas tort. Hein?
Bah, on est tellement bon. Hein? Bon. Puis les gens, et puis Machibuzo qui nous félicite là. Honnêtement, là, je dis, Hilton, entre moi et toi, ok? Il y a juste moi et toi. Tu sais, entre nous, là, et des amis qui nous écoutent.
Quelques-uns.
On est bon quand même. Hein?
Ouais, on est divertissant.
Ok, t'es tellement.
Au moins.
On est divertissant.
Ouais.
Ethnique.
Gratuit. Comique,
gratuit. Quoi d'autre? Surtout gratuit. Mais normalement, ces impressions, c'est difficile de faire une opinion sur une impression. Ouais. Mais ce qui est important de prendre en compte, c'est que tout ça, c'est des niveaux. C'est comme à Goto, t'as différents niveaux, différents levels.
Ouais, mais moi, ce qui je déplore, des fois, c'est l'effet de mode. Tu comprends ce que je veux dire?
Vas-y, explique.
On nous a tellement vendu en début de saison, ce staff, puis c'est pas négatif, là, mais tu sais, on a tellement répété, conditionnement physique. Là, tout d'un coup, si on a du succès, on va attacher ça, on va faire une cause à effet, là, trop facile. C'est à cause du conditionnement physique. Mais genre, tu sais, puis là, si j'analyse ça, puis conditionnement physique, pas tant que ça, parce que il y a des joueurs qui n'étaient pas en forme avant, qui ne le sont pas plus. J'ai pas vu de transformation incroyable chez aucun joueur. Tu sais, quand Vargas est arrivé, on disait que peut-être que justement ça, c'est un aspect à améliorer. Ben, ça ne s'est pas amélioré. Il y a d'autres joueurs comme, tu sais, Matteo. Matteo n'est pas devenu. Il n'a pas rajeuni de 5 ans. C'était l'inverse. Mais ceux qui vont bien physiquement allaient déjà bien. Il y avait déjà une propension à avoir du bon physique.
Par exemple, Piatti, il est tout le temps top shape.
Duval est brûlé après 20 minutes. Petrasso, son corps a lâché. Jusqu'à quel point?
Oui, mais c'est tellement individuel. Chacun a son propre profil, sa propre musculature. Honnêtement, c'est tellement différent.
Mais là, on voit que c'est une caractéristique importante dans les acquisitions de Montréal. T'sais, Silva est arrivé, c'est une machine de guerre sur le terrain.
Ouais, c'est de l'impact physique, là. Il n'arrête pas, puis il met la pression, puis il met le pied. C'est aussi l'attitude.
Azira a toujours été connu pour au moins avoir cette capacité physique.
Exactement.
Et on voit que c'est un critère de choix. Les prochaines acquisitions de Montréal, quand ils vont avoir le loisir de choisir, ça va faire partie d'un un des checklists.
C'est pourquoi on voit comme un gars comme Amariquois, même s'il se blesse tout le temps, quand on voit sur le terrain, il est sec. Dans sa façon de jouer, il met le pied, il s'impose.
Mancuso, il va faire un bon joueur de rotation et de profondeur.
Exactement, Mancuso, on ne le voyait pas. sais, Vargas, c'est Casper, le friendly ghost, Vargas. Il met pas le pied, il dribble pas.
On a un pari là-dessus, toi et moi. Hein.
J'avais dit quoi, Vargas? Ah ouais, qui va, ouais, Vargas va revenir, ouais. Ouf,
ouais, c'est ça.
Quel pari nul que j'ai fait. Ouf. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Comme suite, Balou va avoir une meilleure carrière que Piatti. Ouf.
Oui, ça aussi, tu me l'as dit.
Non, ouais. J'ai encore 10 ans pour Balou, c'est bon.
Je sais même pas s'il ferait l'équipe canadienne présentement.
Oh, je pense que oui.
Avec tous les jeunes, ça aussi, ça pourrait faire... on pourrait parler de
Bah, à son poste, il n'y a pas Junior Hoilett, donc peut-être que c'est difficile. Mais regarde, honnêtement, parler de fitness, tout ça, moi, je n'y connais rien. Tout ce que je sais, je vois, c'est qu'il est les moteurs de cette équipe-là. Même s'il est blessé, c'est Fanny. Tider, Piet, c'est les moteurs. Piatti, c'est un moteur. Ça ne bouge jamais, ça. Et Silva aussi. Donc, on voit qui pousse l'équipe vers l'avant et t'ajoute des pièces intéressantes. Et aussi avec le modèle de jeu de garde dont on avait parlé avant, ça fait le travail. C'est tout. Tout s'encadre. C'est un rouage qui travaille bien, qui va ensemble. Tu mets un peu d'huile pour que ça qu'il n'y ait pas trop de rouille. Puis tu peux juste faire ça. Et encore une fois, ces joueurs-là, ils jouent contre d'autres joueurs sur le terrain. La vérité, c'est la vérité et la vérité est sur le terrain. C'est là où on voit ce qui se passe. C'est quand je blesse tout le temps, est-ce que c'est une blessure récurrente, est-ce que c'est l'hygiène de vie, est-ce que c'est ça? Moi, je ne sais pas. S'il y a TMZ Montréal qui existe, ils vont le savoir pour nous. Mais d'ici là...
Faudrait commencer par aller aux entraînements.
Exactement. C'est vrai. Déjà, moi, j'ai skippé directement genre à l'hygiène de vie, direct pour vérifier chaque jour de l'impact. Mais non, c'est vrai.
Il paraît qu'il faut être là à l'entraînement de jeudi.
Ah, seulement jeudi.
Ouais, jeudi, c'est là que ça se passe. Tu vois le schéma, tu vois le qui reçoit qui en visite. Tout se passe le jeudi. Je pense que rendu là, on a fait le tour de l'émission.
On a fait le tour. Donc voilà. Donc merci tout le monde de nous avoir écoutés sur ce podcast, l'épisode 341 du Cannes Football Club, l'édition Couscous Piri Piri. Sofiane avec vous. Merci encore une fois, Nilton.
Merci à toi.
C'est moi qui te remercie.
Je vais être obligé d'écouter le match de l'Algérie à cause de toi.
Ben, désolé les gars. Il y aura des streams partout. Hein. Vous allez en trouver plein.
Non, on peut pas. Il faut être legit.
Ah c'est vrai. Des streams sur votre, des streams partout. Lego. Oui. DAZN.
Ça joue sur DAZN ça?
Non mais j'en nomme plusieurs là. Sportsnet, C'est un tas sport.
C'est quand le match? Est-ce que tu sais par cœur? Samedi, dimanche?
Non, il faut que je vérifie. Non, ils ont juste un match, puis il est beaucoup plus... Non, le match est dans 4 jours.
Oh!
Il est dans 4 jours. Le match est... Attends, je me rappelle. Quand ils sont arrivés, ils étaient à J-5 avant le match. Donc là, on est le 3, c'est le 8. Donc le match va être le 8. Le 8, normalement. Donc, voilà.
On est le 3, d'accord. On va suivre ça.
C'est ça. Donc ils vont être en centre national, c'est dit Moussa. Puis après, ils vont aller... en Gambie, puis ça va être les 25 sélectionnés, puis on verra ce que ça va donner. Donc voilà, c'est le groupe du 3 au 11 septembre. Donc je pense que le match est le 8 ou le 9. Donc voilà, merci tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous inscrire à notre plateforme podcast sur votre plateforme préférée. Mettez les mots-clés Cannes Football Club Plus. Tout ça pour écouter le Point Vendano, le Blaugrana Podcast, le podcast Premier League Les Trois Lions. Évidemment, nous, Couscous Piri Piri. Podcast, le nouveau podcast méditerranéen Infossé à Montréal de Adi Raphaël. Le match en main de notre ami Julien Tardif. Et évidemment, MLS Africa Plus, Borat Sports et Rock'n'Roll. Et évidemment, si vous voulez aussi participer à ça, contactez-nous. On ne sait jamais, on a des bonnes idées pour vous. Mais surtout, supportez-nous en nous écoutant. Et supportez-nous sur Patreon, patreon.com/CanFootballClub. Pour quelques dollars par mois, vous aidez à garder les lumières allumées au CanFC. Nilton, merci encore. Puis à la prochaine tout le monde.
Ciao tout le monde.
MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.